Chapitre 14e. Quand je revins dans la chambrée, je constatai à ma grande surprise que Durutte et Bisson n'étaient pas partis. Presque aussitôt après, j'aperçus Pelet assis sur son lit. « Qu'est-ce que vous attendez ? » leur criai-je. J'avais la sensation que ma main était énorme. Je la trempais dans un seau d'eau. J'aperçus alors mes musettes sur le lit. Il avait pourtant été entendu que mes camarades les emporteraient pour me les donner ensuite. Comme je les mettais en bandoulière, je revis Pelet. Seulement, à ce moment, je me rendis compte qu'il n'était pas parti. Puis je me souvins qu'il devait, lui, m'attendre. Comment se faisait-il qu'il ne bougeait pas, qu'il ne m'aidait pas? Il n'avait même pas mis sa capote. « Qu'est-ce que tu fais ? » lui demandai-je. Je ne comprenais pas que Pelet ne tînt aucun compte des consignes que je lui avais données. Je me dirigeai vers la fenêtre. Elle était ouverte. Les planches étaient arrachées. Je n'avais qu'à sauter. Au même moment, Durutte et Bisson se plantèrent entre les deux lits placés sous la fenêtre. Je voulus les écarter. Je crus qu'en les poussant légèrement, j'allais pouvoir passer. En effet, ils parurent s'écarter. Bisson se mit sur le côté, mais Durutte, comme s'il ne savait où se mettre pour ne pas me gêner, prit sa place. « Laissez-moi passer, » dis-je. Ils changèrent encore de place, mais de telle façon qu'ils barraient toujours le passage. Je compris tout à coup qu'il cherchait à m'empêcher de fuir en feignant de ne pas savoir où se mettre. « Laissez-moi passer » criai-je. Je tremblais. J'allais être pris. Mais peut-être tout cela n'était-il que de l'imagination. Je me tournai vers Pelet. Cet homme, qui avait toujours eu une expression si humble, qui m'avait toujours témoigné une sorte de déférence gênante dans une vie quotidienne, dont nous partagions de façon égale la misère, qui avait toujours l'air de souffrir d'une injustice, s'avançait vers moi les mains levées, les cheveux embroussaillés. J'aurais tué sa femme et son fils, que je n'aurais pas senti chez lui plus de haine contre moi. Il me prit le bras, me serra de plus en plus fort, si bien que j'eus brusquement le sentiment que je ne pourrais pas me dégager. « Qu'est-ce que tu as fait ? » me demanda-t-il. J'eus alors la vision d'un drame épouvantable. Ils avaient peur, ils ne voulaient plus partir, et ils voulaient m'empêcher, moi, de partir pour ne pas être accusé à ma place, pour que je puisse répondre du meurtre des deux sentinelles, pour ne pas payer à ma place. Je me dégageai d'un mouvement sec. Pelet, comme frappé par ma brusquerie, laissa tomber ses bras. Il jouait une affreuse comédie. Il cherchait à me faire croire que je venais de lui causer une peine profonde, que je ne comprenais rien à ses sentiments, qu'il m'aimait. « Qu'est-ce que vous attendez ? » répétai-je. Ils ne répondirent pas. Je pensais que j'avais été maladroit. Pourquoi n'étais-je pas sorti par la porte d'entrée puisque j'avais les clés, pour Pelet, pour être fidèle à ma parole? Il me reprit le bras avec un air de femme qui cherche à reconquérir un homme qui la frappe. « Voyons, voyons, » disait-il. J'ai été persuadé à présent qu'il voulait me retenir pour me livrer. Je n'essayais pourtant pas de me dégager, faisant semblant de croire que ce bras passé sous le mien était une marque d'affection. Mais j'avais peur. De plus en plus peur. Si nous ne partons pas immédiatement, criai-je, nous allons tous être pris. Pelet me lâcha. Puis il leva les bras, les agita comme font les vieillards dans le malheur, et brusquement se mit à m'injurier, m'accusant d'avoir fait les choses tout seul, de n'avoir écouté personne, de les avoir trompés, de vouloir être plus malin que tout le monde. Durutte et Bisson l'approuvaient. On ne me laisserait pas fuir. On dirait la vérité, nous serions fusillés tous ensemble. Je cherchai un objet pour me défendre. Personne ne bougea. Je sentis alors que malgré les apparences, ils pensaient plus à eux-mêmes qu'à moi, et que si j'agissais sans tenir compte de leur présence, ils n'oseraient finalement rien faire. « Faites attention à vous !» dis-je à Durutte et Bisson sur un ton menaçant, en me dirigeant vers la fenêtre. Ils s'écartèrent. J'entendis Pelet. « Il va partir, il faut partir tous !» Je sautai dans la cour. Je pris le chemin qui longeait les rails sur le remblai. Je n'avais pas fait 50 mètres que j'entendis mes camarades sauter à leur tour et courir derrière moi. À aucun moment je ne craignis qu'au lieu de fuir avec moi, ils ne cherchassent à me ramener au cantonnement. J'avais déjà oublié ce qui s'était passé. Ils avaient leurs musettes, leurs couvertures. Pelet avait mis sa capote. Il me dit qu'il fallait quitter le chemin que nous suivions et passer sous le petit pont et non dessus. Nos camarades devaient nous attendre un peu plus loin, à gauche, derrière un mur à moitié écroulé. On eût dit qu'il ne s'était rien passé entre Pelet et moi. Je lui dis, sans répondre à ses explications, « Tu as failli tout faire rater. » Et je lui donnai de toutes mes forces une gifle. Il me la rendit aussitôt. Cela nous soulagea. Durut et Bisson ne parlaient pas. Ils avaient l'air accablés. Pour leur redonner du courage, je leur dis que nous étions tous dans la même situation et que maintenant nous devions nous aider les uns les autres. Nos camarades nous attendaient un peu plus loin, immobiles, silencieux, certains cachés derrière le vieux mur, les pieds dans des orties, d'autres derrière un fourré de ronces. Ce silence et cette docilité chez des hommes jeunes me frappèrent. Ils nous entourèrent. Pelet, que je croyais redevenu normal, se mit à raconter qu'il y avait eu des coups de feu, que c'est moi qui avais tiré, que les sentinelles avaient été tuées. Je lui dis de se taire, que ce n'était pas le moment de parler de ça. D'ailleurs, j'avais des comptes à demander aux salauds qui n'avaient pris aucune précaution, qui avaient fait un bruit de tous les diables pendant que j'étais dans le poste de garde. « Qu'est-ce que vous faites là? Il faut partir, il y a de la lumière dans la villa !» dit Bailliencourt, qui, comme toujours, partait seul en exploration et revenait avec des ordres ou des renseignements auxquels son absence donnait une certaine autorité. « Mais oui, il faut partir » dis-je. Mais Pelet recommençait ses histoires de cantonnement. Il voulait que nous retournions tous à la villa. Il fallait être fou pour s'imaginer qu'on allait pouvoir arriver en France après ce que j'avais fait. La population allait se joindre à la troupe pour nous chercher. Une fois repris, nous allions tous être mis dans le même sac. Si, au contraire, nous retournions au cantonnement et que nous racontions ce qui s'était passé, il n'y aurait que moi qui aurais des comptes à rendre. Je voulus parler, dire que j'avais agi dans l'intérêt de tous, dire surtout que ce qui était arrivé n'était pas ma faute, que je n'avais pas manqué de sang-froid, mais que c'était la faute de ceux qui avaient continué de frapper sur les planches après le passage du train. Il fallait avoir perdu la raison. Alors, parce qu'on est nombreux, parce qu'on est 15 ou 20, on ne se croit plus tenu à aucune prudence. Il fallait m'écouter, rien ne serait arrivé. À ce moment, Pelet, devenu fou furieux, se jeta sur moi en poussant des cris hystériques. J'avais tout fait exprès. Je n'avais pas de famille, moi. J'étais un prétentieux, j'avais voulu me rendre intéressant, j'avais profité de la gentillesse, de la naïveté de mes camarades, etc. Un instant, je pensais à m'enfuir, à abandonner tout le monde. Je me tournai vers mes camarades. Je les vis aux aguets, regardant à gauche, à droite, si indifférents à ce que venait de dire Pelet, si loin de tout sentiment de haine, que je repris confiance. Pelet me tirait par la courroie de ma musette. Il était tellement en colère que je lui donnai un coup de poing. Il se mit à hurler. J'entendis qu'on disait qu'il exagérait. Mes camarades le saisirent à bras-le-corps et l'éloignèrent de moi. J'eus la joie immense de constater que personne ne me donnait tort, qu'il n'y avait que Pelet qui m'en voulait, que sans lui personne ne m'eût reproché ce qui était arrivé, que tous comprenaient très bien que c'était un accident imprévisible, que cela faisait partie des risques qu'ils avaient acceptés par avance de courir. Je me sentis défaillir. Après tout ce que je venais de vivre, le bonheur de me sentir semblable à mes camarades, de les voir interpréter d'une façon si simple et si naturelle les événements, était si violent que sans qu'il y eût apparemment de raison à ce que je faisais, je m'écartai d'eux et lentement, je me mis à marcher droit devant moi. J'entendais de ma tête comme des cloches de différents tons. On m'appelait, mais comme si j'avais été victime d'une injustice profonde et que tout le monde le sachant, on devait finalement la réparer. J'éprouvais une joie amère et délicieuse à m'éloigner, à attendre qu'on courût derrière moi. Mais je perçus des cris puis une détonation. Les Allemands nous avaient-ils rattrapés? Je me mis à courir, m'accrochant les pieds à chaque instant, sautant sans voir où j'allais retomber, m'écorchant au buisson, me cognant le front à de grosses branches. Un ruisseau me barra la route. J'y pénétrai, et comme l'eau ralentissait ma marche, et que je voulais quand même aller aussi vite, je tombais. Je me relevais, puis je retombais encore. Je ne savais même plus retenir ma respiration. J'avalais de l'eau. Je me mis à tousser. Tout à coup, je vis du sang sur ma main. Je ne savais plus d'où venait ce sang. J'avais oublié la balle qui m'avait touché entre le médius et l'index. En arrivant sur l'autre berge, je m'accrochai à une branche pour sortir. Elle cassa. Je retombai dans l'eau. Je poussai un cri. Je crus un instant que j'allais me noyer comme un enfant dans 50 centimètres d'eau. Enfin, je parvins à sortir du ruisseau. Je marchai en zigzag pour faire perdre ma trace. Bientôt je me trouvais en face d'un moutonnement de ronces. Je revins sur mes pas. J'entendais toujours des bruits de voix. Était-ce mes camarades ou bien les Allemands? Je me couchai à plat ventre. Pour étouffer mon halètement, je me cachai la bouche dans le creux de mon coude. Enfin, je voulus me lever, mais j'en fus incapable. Une peur affreuse m'envahit à la pensée que j'étais immobilisé, paralysé, incapable de courir, de me servir de mes jambes. J'entendais toujours du bruit. Je parvins, en rampant, à me glisser à demi sous un fourré. Je reconnus à ce moment la voix de Roger. Il me tira par les pieds, m'essuya le visage avec ma cravate mouillée, puis, me prenant sous les aisselles, me releva. Mais à peine m'eut-il lâché que je retombai à terre. Je n'avais rien à craindre, mais je me remis pourtant instinctivement à ramper vers le fourré d'où Roger venait de me tirer. Il me releva encore une fois et mit mon bras autour de son cou. À peine eûmes-nous fait quelques pas qu'à ma grande surprise nous nous trouvâmes sur le chemin. Je retombai encore à terre. Ce n'était pas de l'épuisement. Physiquement, j'aurais tout de même pu marcher, mais j'étais moralement à bout et je sentais un obscur réconfort à être soulevé de terre. Roger me saisit à bras-le-corps, mais au lieu de m'aider, je me fis plus lourd que je ne suis. Il me lâcha. Je l'entendis m'injurier. Tout à coup, je sentis une douleur au visage, puis une autre. Roger me frappait. Je reprenais vie. Encouragé, Roger continuait de plus en plus fort. Je me redressais. J'eus un mouvement de défense. Je criais « Assez !»« Tu vas mieux ?» me demanda Roger. Il me donna une claque amicale. Je me levai. Nous marchâmes côte à côte. Tout à coup, je pris Roger par le cou, je le serrai contre moi de toutes mes forces et je l'embrassai. « Viens, viens !» me dit-il. « Où sont les autres ? » demandai-je. « Ils nous attendent un peu plus loin. »